Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue aux parts actualités du 30 octobre 2017. Hélène Denis au microphone et en manchette aujourd'hui, arrêtée pour avoir agressé sexuellement une adolescente déficiente intellectuelle. Davantage de demandes, mais pas plus d'intervenantes dans les CALAC. Victoriaville, Roulibus fait le pari de la jeunesse. Un nouveau site web adapté aux personnes handicapées. Un homme accuse un hôpital confessionnel de retarder sa demande pour une aide médicale à mourir. Et en entrevue, je recevrai Marine Gaillard, coordonnatrice des programmes au Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, qui viendra nous parler d'une exposition en art visuel. Et aussi Judy Benjamin, bénévole pour l'INCA, qui participe au programme Vision Amitié. Un homme sans scrupules qui aurait agressé sexuellement une adolescente souffrant d'une déficience intellectuelle sévère et qui aurait filmé les agressions a été arrêté par la police de Montréal dans TVANouvelles.ca. L'affaire a débuté en mai dernier alors que les policiers ont ouvert une enquête à la suite d'une plainte pour voyeurisme à l'égard d'Éric Brands, 46 ans. Cette enquête a mené à la saisie de matériel informatique appartenant à Brands. Les policiers ont alors découvert que l'ordinateur du suspect renfermait des images de pornographie juvénile ainsi qu'une vidéo d'une agression sexuelle n'ayant pas été rapportée à la police. Les enquêteurs ont ensuite réussi à retrouver la victime de cette agression et de confirmer l'implication de Brands dans ce crime sordide. Éric Brands a finalement été arrêté le 12 octobre à Montréal. Selon la police, Brands, un laveur de vitres, aurait profité de ses visites chez la victime pour l'agresser sexuellement et filmer les ébats. La victime était adolescente lorsque les agressions ont débuté. Les enquêteurs affirment que les crimes reprochés auraient pu avoir été commis entre mai 2010 et octobre 2017, a indiqué le SPVM. Les enquêteurs disent avoir de bonnes raisons de croire qu'Éric Brands aurait pu faire d'autres victimes. La police demande à toute personne qui aurait été agressée par le suspect de communiquer avec le 911 ou de se rendre au poste de police de son quartier afin de déposer une plainte officielle. Nouvelle dans le journal de Montréal.com, davantage de demandes, mais pas plus d'intervenantes dans les CALAC. La vague de dénonciations d'inconduite et d'agressions sexuelles en lien avec les affaires Weinstein, Roson et Salvaille entraîne une hausse dans les demandes d'aide dans les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC, mais l'offre ne suit pas. On le ressent déjà dans nos centres. Il y a beaucoup de femmes qui appellent pour avoir du soutien, a dit Stéphanie Tremblay du regroupement québécois des CALAC. Mais malgré la hausse du nombre d'appels, impossible d'augmenter le nombre d'intervenantes pour aider celles qui en ont besoin. On ne peut pas, on n'a pas d'argent, a déploré Mme Tremblay, qui estime que le million de dollars promis par le gouvernement Couillard est nettement insuffisant. Elle espère toutefois qu'une partie de cette somme permettra d'engager plus d'intervenantes. Les CALAC offrent des services aux femmes de 12 ans et plus. Les hommes qui ont été victimes de crimes à caractère sexuel sont référés au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC. Les femmes qui veulent cheminer avec les CALAC le font de façon volontaire, rappelle sa représentante. On va répondre à leurs besoins. Si c'est simplement d'exprimer ce qu'elles ressentent au téléphone, ce sera ça, explique Mme Tremblay. Si elles désirent avoir un suivi individuel avec une intervenante, si elles désirent faire partie d'un groupe de soutien, ça va être quelque chose qu'on peut leur offrir. Les intervenantes ne les incitent jamais à porter plainte, mais ne les dissuadent pas non plus, dit Mme Tremblay. On va les accompagner dans ce processus-là. C'est vraiment toujours leur choix. Une exposition d'aquarelles réalisée par des membres du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, intitulée « Nature insaisissable », présentée jusqu'au 25 novembre dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Montréal, donc est en cours depuis vendredi dernier. Et c'est un événement présenté dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. J'en parle avec la coordonnatrice des programmes au CIVA, Mme Marine Gaillard. Bonjour, Mme Gaillard.
Bonjour.
Alors, une exposition qui s'intitule « Nature insaisissable ». Comment est né le projet?
En fait, c'est un projet donc, qui est né, comme vous le disiez, pour les festivités du 375e.
On vous a sollicité?
En fait, on a présenté ce projet-là.
D'accord.
Donc, le projet consistait sur deux étés, donc en 2016 et 2017, à faire des ateliers d'aquarelle en plein air dans les différents parcs de Montréal. Mmh. Donc vraiment de s'approprier les espaces publics, puis on sait que les parcs sont aussi de plus en plus accessibles. Il y a des aménagements qui sont faits en ce sens-là. Donc ça permettait de vraiment pouvoir plus profiter de la ville et ensuite de pouvoir montrer le travail qui avait été réalisé et la vision de nos artistes sur leur ville.
Et combien d'artistes ont participé à l'élaboration de l'exposition?
15 artistes au total.
D'accord.
Sur 9 ateliers.
Et parlez-nous donc de ce travail, du travail des 15 artistes, leur implication.
Mais c'était vraiment des ateliers donc d'une journée au complet. Dans différents parcs. Ça a été 6 parcs au total, le Mont-Royal, l'île Bizarre, la Cité du Havre, Cap-Saint-Jacques, le Champ de Mars et le Jardin botanique.
Oh, de beaux endroits!
Exactement, ouais. six beaux parcs de Montréal, très différents aussi, ce qui amène des paysages quand même très variés, mm-hmm. Avec des techniques aussi différentes, des couleurs, les motifs, etc., qui sont très... très varié entre chaque parc.
Et les artistes qui ont participé à cette exposition vivent avec une limitation fonctionnelle. Et oui. Je me demandais en quoi leur expérience a-t-elle été significative ou signifiante? Qu'est-ce qu'ils en ont retiré?
Mais je pense qu'il y avait vraiment le côté d'appropriation de leur ville en tant que citoyen à part entière. Je pense que ça, c'était vraiment une démarche importante. Mm-hmm. Et le fait vraiment de faire du plein air, d'aller en extérieur, d'aller dans les parcs, en fait, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas trop cette habitude-là, justement parce que souvent, il y a un manque d'accessibilité. Donc, ils allaient un peu dans les parcs, mais peut-être moins régulièrement que d'autres personnes qui n'ont pas de limitation. Puis là, c'est sûr que les 6 parcs qu'on a visités, c'est 6 parcs qui sont très accessibles avec toutes les infrastructures, des tables à pique-nique adaptées, des toilettes, les chalets de parc, etc. Donc, ça permettait vraiment une appropriation de cet espace-là.
Mm-hmm. Et ça leur a fait prendre conscience qu'il y a des parcs qui les accueillent facilement.
Oui, exactement. Puis, c'était très intéressant de voir aussi le côté à la fois d'être en ville et d'être en pleine nature aussi.
Ah oui.
C'est une chance à Montréal, il y a quand même beaucoup d'espaces verts. Puis, des fois, on est en plein milieu de la ville, dans un parc, puis on a l'impression d'être presque à la campagne.
Ah, c'est vrai. Quand on est complètement exaspéré par, je sais pas, les bouchons de circulation,
voilà.
On va dans un parc, puis on respire mieux. Et puis, Mme Gaillard, combien d'œuvres sont exposées dans le hall de l'Hôtel de Ville?
Alors, il y a 30 œuvres qui sont exposées. Oui, exactement.
Est-ce que c'est 2 œuvres par artiste?
Plus ou moins, ça dépend. Mmh. Il y en a qui ont participé à plus d'ateliers que d'autres, donc ça varie, là, mais... On va dire que c'est une moyenne.
D'accord. Alors, ce sont tous des paysages qu'on peut voir sur les tableaux.
Oui, exactement. Avec des fois du plus figuratif, du plus contemporain, plus abstrait. Ça dépend vraiment de chaque personnalité, de chaque artiste. Mm-hmm. Fait que c'est ça. L'exposition est visible pour tout le mois, en fait, jusqu'au 25 novembre. Mm-hmm. Et c'est l'exposition qui clôt les festivités du 75e à l'Hôtel de Ville.
Du 375e.
Du 375e.
Et vous avez rajeuni la ville.
Oui, exactement.
Oui.
300 ans de moins.
Est-ce qu'on peut acheter les tableaux?
Ils sont pas en vente à l'Hôtel de Ville. Il n'y a pas de vente qui se fait, mais certains peuvent être achetés éventuellement. Oui.
Est-ce que cette exposition-là sera itinérante? Est-ce que vous pensez la présenter ailleurs, à Montréal?
Oui, c'est en cours. On est en train de présenter des dossiers pour qu'elle soit itinérante, présentée à plusieurs endroits au cours de la prochaine année.
Ah oui, dans les maisons de la culture.
Exactement. Il y a plusieurs endroits possibles, donc peut-être que vous aurez la chance de la voir ailleurs aussi.
Et il y a une vidéo audio descriptive qui a été créée pour les visiteurs ayant une déficience visuelle.
Oui, exactement. En fait, on a essayé de rendre ça le plus accessible
Accessible,
au plus grand
oui.
monde. Donc, au début de l'exposition, il y a une petite affichette en braille avec un lien d'Internet, en fait, puis qui amène sur YouTube où l'exposition défile et est décrite aussi pour les personnes qui ont une déficience visuelle.
Excellente idée. Alors, Marine Gaillard, coordonnatrice des programmes au CIVA, merci pour cette entrevue. Nous irons voir votre exposition qui s'intitule Nature insaisissable.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée. Au
Au
revoir.
plaisir. Sur lanouvelle.net, en confiant la direction de Roulibus à Jérémy Tremblay, on a fait le pari de la jeunesse, affirme André Baudry. Ce dernier vient de prendre sa retraite de l'organisme qu'il faisait rouler depuis un peu plus de 12 ans. Roulibus, c'est un organisme à but non lucratif, mais c'est aussi une bien belle petite business de 15 employés avec un budget d'autour d'$1 million, dit M. Baudry. Choisi parmi une vingtaine de candidats, Jérémy Tremblay vient ainsi de s'installer aux commandes du service de transport adapté, lequel a été créé il y a tout juste 35 ans. Âgé de 27 ans, le jeune homme a quitté ses fonctions de directeur général adjoint de la municipalité de Sainte-Sophie de Halifax, son premier emploi permanent depuis la fin de ses études en administration à l'Université du Québec à Trois-Rivières. S'il est né à Chicoutimi, il a grandi à Princeville, où il réside toujours. Ce poste de directeur général de Roulibus, il l'a perçu comme un nouveau défi, une possibilité d'avancement dans son plan de carrière. Sa formation et ses fonctions à la municipalité de Sainte-Sophie l'ont préparé à la gestion de projets et de budgets, explique-t-il. Et puis, ajoute-t-il, comme à la municipalité, il a à travailler avec un conseil d'administration. Ses défis seront de s'approprier la réalité de Roulibus et de bien connaître ses partenaires, dit le vieux routier André Baudry. Ce dernier ne s'éloigne pas du bureau qui était encore le sien il y a quelques semaines, le temps que le jeune DG prenne sa place. Ce dernier se réjouit d'ailleurs de pouvoir profiter des conseils de son prédécesseur. La table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière a procédé au lancement de son nouveau site Web présentant divers services offerts aux personnes handicapées dans la région. La particularité du site, la navigation est adaptée pour les personnes présentant des limitations. C'est sur le site l'action.com. Claude Savoie, qui est non-voyant, en témoigne lors du point de presse. Les sites Internet sont souvent peu conviviaux et difficiles d'utilisation pour les personnes présentant une déficience visuelle. Grâce à une synthèse vocale qui lit pour lui les contenus des sites à voix haute, celui qui œuvre à l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier se débrouille sur Internet. C'est grâce à sa collaboration que l'équipe de développeurs de la plateforme a pu procéder à certains ajustements. Moi, par exemple, je me sers beaucoup du clavier pour me promener, plutôt que de la souris parce que c'est plus facile pour sélectionner les bons onglets. Mais pour que cette méthode fonctionne, il faut que le site soit bien fait. Et les sites bien faits comme celui présenté aujourd'hui sont encore rares. Grâce à une subvention consentie par l'Office des personnes handicapées du Québec et entourée par des professionnels aguerris, l'équipe a mis en place une plateforme conviviale et accessible. Thank you. Madame Judy Benjamin, vous avez déjà entendu sa voix. Elle me demandait quand est-ce que ça allait commencer cette entrevue et ça commence maintenant. Bonjour, Madame Benjamin.
Bonjour.
Alors, vous êtes bénévole pour INCA et vous avez accepté de nous parler de votre expérience chez Vision Amitié. Vous êtes une infirmière retraitée. D'abord, Vision Amitié, qu'est-ce que c'est exactement?
Je comprends pas.
Vision Amitié.
Ah, je sais pas.
Vous savez pas, mais c'est un service de bénévolat?
Oh oui, excusez-moi, je me trompe.
Non, ça va?
Ah oui, ce sont des bénévoles qui aident les gens, qui visitent, qui font leurs commandes pour faire les visites sociales.
Mm-hmm.
Prendre pour le contact, thé. Pour le contact
oui,
avec les autres gens.
C'est ça qui est important.
Oui.
Et vous avez commencé à faire du bénévolat pour Vision Amitié quand exactement?
À peu près 4 ans.
D'accord. Toujours avec la même personne?
J'ai commencé avec une autre femme, mais ça ne marchait pas parce qu'elle avait besoin plus d'heures que je pouvais donner.
Ah oui, d'accord.
C'est tout.
Alors, on peut donner le nombre d'heures dont on dispose, évidemment, quand on fait du bénévolat.
Oui, oui. Elle avait besoin de plus que généralement.
Mm-hmm.
Elle avait besoin de 7 heures. Ou plus.
D'accord. Et pourquoi vous, Madame Benjamin, est-ce qu'on dit Benjamin ou Benjamin?
Oui, Benjamin. Ou l'un ou l'autre.
Ou Judy.
C'est la même personne.
D'accord. Alors, pourquoi, Madame Benjamin, avez-vous choisi ce type de bénévolat?
Parce que j'aime aider les gens.
Oui.
J'ai d'habitude, pendant quelques années comme infirmière, d'aider les gens.
Mm-hmm.
Et après ma retraite, j'avais encore envie.
Oui, mais pourquoi ces gens-là en particulier?
Je pense que j'avais quelque chose à offrir. J'aime beaucoup jaser, bavarder. Ces gens m'intéressent un petit peu.
Oui.
Parce que c'est difficile pour eux de réussir.
Certainement. Et là, vous êtes jumelée, on ne la nommera pas, on va respecter la confidentialité. Vous êtes jumelée quand même avec une femme ou
une
un homme?
Une femme très gentille.
Oui.
Absolument très gentille. J'ai pensé ça à notre...
Première rencontre.
Absolument.
Ah oui, ça a cliqué, comme on dit.
Tout de suite.
Et comment ça fonctionne, vous arrivez chez la personne? Expliquez-nous une journée type.
OK. Souvent, si on peut sortir, il n'y a pas une tempête par exemple, je demande, est-ce que tu veux sortir à la centre d'achat? Elle dit oui. Je dis, OK, je serai là à 1 heure.
Vous l'appelez la veille?
Ah oui, oui. Toujours, pour vérifier si elle est correcte. Parce que de temps en temps, elle est enrhumée ou il y a quelque chose qui arrive qu'il faut canceller.
Oui, oui.
Mais si elle est prête de sortir avec moi, elle est en bas à 1 heure. Mais si j'arrive de bonne heure, 15 minutes d'avant, elle est déjà en bas.
Elle vous attend?
Oui, et je remarque quelque chose chaque fois que je la vois. Toujours, toujours propre, bien habillée. J'ai beaucoup de respect pour cette femme. C'est une gentille, gentille femme.
Oui, elle est toute contente de sortir aussi. Elle se met toute belle.
Ah oui! Elle met du maquillage comme coquette déjà.
Oui, oui.
C'est incroyable.
Pour vous, pour elle, pour les autres. C'est bon pour l'estime de soi.
Mm-hmm. Oui. Vous avez raison.
Et si jamais quelqu'un veut s'impliquer, parce que vous avez... besoin de bénévoles à Vision Santé, Vision Amitié.
Oui.
Si les gens sont intéressés à faire du bénévolat, comment il faut procéder?
Il faut contacter INCA et ils vont faire une vérification parce que les gens qui sont aveugles sont un peu fragiles. Il faut faire attention.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Par exemple, on a fait une vérification de mon histoire avec la police, RCMP, tout, même comment je conduis, parce que il faut protéger les gens.
Mais je comprends, oui. Alors, c'est ça, les bénévoles, ben, tout le monde peut y participer, mais en même temps, il y a quand même...
Ils font une vérification pour
sérieuse.
Savoir qu'ils se sont « secure ». Et après ça, on commence.
Oui, et si il n'y a pas d'atome crochu, si vous rencontrez une personne aveugle, non-voyante, et que cette personne-là dit, c'est pas avec vous que j'ai envie de prendre le café, d'aller faire des courses et vice-versa. Si la personne qui fait du bénévolat,
si ça marche pas,
je m'entends pas vraiment bien, c'est ça, si ça marche pas, simplement.
Et je pense qu'il essaie de trouver une autre personne.
Oui.
Parce que c'est pas toujours les deux gens qui s'aiment.
Non, mais il faut laisser aussi, j'imagine, la chance au coureur, faire une peut-être plus qu'une première rencontre, en faire oui. au moins une deuxième, là.
Mais c'était bon, la première rencontre, et depuis ça, aucun problème.
Ah oui. Alors, Judy, vous allez continuer longtemps?
Oui.
Oui?
Si elle va m'accepter.
Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça va bien. 4 ans, c'est très, très bon signe.
Oui.
Et pour s'inscrire comme bénévole, j'ai ici des informations. Vous pouvez joindre Stéphanie Michaud.
Oui.
Au 1-800.
Oui.
Vous l'avez le numéro de téléphone par cœur? Parce
non.
que je l'ai moi. Bien, je vais le donner. 1-800-465-4622, poste oui. 226. Mmh. 1-800-465-4622, poste 226. Ou par courriel, stéphanie.michaud@inca.ca.
Oui. Et une autre chose aussi. Mmh. Stéphanie fait, elle réussit parce qu'elle vérifie avec tous les gens qui sont bénévoles. Une fois par mois pour savoir combien d'heures, comment ça marche. Et vous avez toujours la droite de la rejoindre si vous avez aucun problème.
Oui,
elle
oui.
est toujours en contact avec les bénévoles.
Mais c'est parfait, ça, c'est bien.
Très gentil avec.
Il y a un encadrement, c'est du
oui,
sérieux.
Oui, oui, oui.
Et est-ce que quand on s'engage, il faut s'engager pour... Si vous faites le bénévolat le mardi pour venir à tous les mardis ou ça peut changer d'une semaine à l'autre?
Vous pouvez changer, c'est votre client, c'est vous et eux qui décident
D'accord.
quand on veut se voir.
Il y a cette liberté-là.
Absolument.
De part et d'autre. Merci beaucoup, Judy Benjamin, d'être passée dans nos studios, bénévole pour INCA, qui a accepté donc de parler de son expérience, qui est vraiment une belle expérience inspirante chez Vision Amitié, infirmière retraitée. Bonne continuation, Madame Benjamin.
Okay, bye bye, merci.
Bye. Une nouvelle sur le site de Radio-Canada, un homme accuse un hôpital confessionnel de retarder sa demande pour une aide médicale à mourir. Un homme de 88 ans dit attendre depuis des semaines dans un hôpital de Winnipeg, dis-je bien, pour savoir s'il est admissible ou non à l'aide médicale à mourir. Shepudira Gopal Krishna est soigné au Centre de santé Miséricordia, un établissement confessionnel qui n'offre pas ce service. Après que son état de santé se fût considérablement détérioré la dernière année et demie, M. Gopal Krishna s'est vu signifier par les médecins qu'il souffrait d'une forme de la maladie de Lou Gehrig, ou sclérose latérale amyotrophique, qui le prive de sa mobilité. L'établissement de santé précise qu'il offre de l'information relative à l'aide à mourir aux personnes qui en font la demande, mais qu'il ne prendrait pas part au processus. Il souligne notamment qu'il refuse que l'évaluation initiale des patients pour déterminer leur admissibilité au programme ait lieu entre ces murs. M. Gopal Krishna dit avoir pris contact au début octobre avec l'équipe d'aide médicale à mourir du Manitoba. Il dit avoir attendu pendant plusieurs semaines pour que son dossier médical lui soit communiqué. Un professeur d'éthique à l'Université du Manitoba, Arthur Schiffer, estime que tout retard dans l'accès à l'aide médicale à mourir est inacceptable. On fait obstruction aux droits des patients les plus vulnérables et les plus fragiles à avoir accès à des informations sur leur choix de fin de vie légalement autorisé. C'est honteux. Le Centre de santé Miséricordia indique que c'est la première fois qu'il traite une telle demande. We'll be right back. Sur le site leséchos.fr, sclérose en plaques, un marché de plus en plus concurrentiel. Le traitement de cette maladie neurodégénérative représente un marché d'une vingtaine de milliards de dollars. Aux États-Unis, où se trouvent plus de la moitié des patients, la pression sur les prix s'intensifie. Le Congrès européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques, qui se tient en ce moment à Paris, attire un record de près de 10 000 participants autour de cette maladie neurologique inflammatoire. Elle touche 2,5 millions de personnes dans le monde, dont quelques 100 000 en France. Un bon nombre de médicaments existent déjà pour traiter cette maladie, représentant un marché d'une vingtaine de milliards de dollars. Jusqu'à présent, les médicaments se bornaient à freiner son évolution en réduisant le nombre de poussées inflammatoires qui s'accompagnent de la destruction de la myéline, gaine d'isolation des cellules nerveuses dans la moelle épinière et le cerveau. Le lancement de l'Ocrevus de Roche, qui a obtenu le feu vert américain en mars et est en cours d'examen à l'Agence européenne, crée un net changement. Les médecins disposent pour la première fois d'un traitement qui s'adresse aussi aux malades ayant atteint le stade dégénératif quand les handicaps apparaissent, ainsi que ceux souffrant de la forme la plus agressive, dite progressive. Les analystes tablent sur des ventes de 4 milliards de dollars en 2023. Bien qu'ils doivent être administrés en perfusion, ils devraient prendre 30 à 40 % du marché de Tysabri de Biogen et du Gilenya de Novartis, deux traitements quotidiens sous forme de comprimés. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à mes invités, Marine Gaillard et aussi Madame Judy Benjamin. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis qui vous souhaite un beau lundi. On se retrouve très bientôt.